Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angleco.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. Alors, on en a beaucoup entendu parler, mais on l'attend toujours, le plan de relance européen de 750 milliards d'euros destiné à remettre l'économie européenne sur les rails après la pandémie. Où en est-il, François ?
Oui, c'est vrai que c'est un peu l'arlésienne. Vous vous souvenez des précédentes étapes qui avaient été d'ailleurs célébrées, et particulièrement en France, parce que on nous avait fait clairement comprendre que c'était grâce au grand président Macron que tout cela était décidé. Première étape, en mai, accord franco-allemand entre justement Emmanuel Macron et puis Angela Merkel pour un plan de 500 milliards d'euros. Et puis, la commission surenchérit à l'été, donc quelques semaines plus tard, en disant mais ça ne sera pas 500, mais 750 milliards, avec un projet d'emprunt mutualisé, hein, ce qu'on a appelé les eurobonds, c'est-à-dire justement un crédit qui serait souscrit par l'ensemble des pays de l'Union européenne de façon solidaire. Et puis, de longues discussions aboutissent finalement à un accord du Conseil européen le 10 décembre. Accord très difficile à accoucher puisqu'il avait fallu remettre dans le bateau la Pologne et la Hongrie et puis les pays qu'on appelait frugaux, c'est-à-dire les pays généralement mieux gérés qui étaient vigilants sur l'utilisation de leur denier et qui ne voulaient pas que l'argent parte sans contrôle. Au total, 750 milliards devraient être décaissés d'ici à 2023, dont une grosse moitié, 390 milliards, en subventions pures. Le reste, ce sont des prêts à taux intéressants. Alors ça représente des sommes très importantes pour les différents pays. L'Italie, qui est le premier bénéficiaire parce que c'est le pays qui a le plus souffert de la crise sanitaire, plus de 80 milliards d'euros de subventions. Hein. C'est considérable. Pour l'Espagne, c'est pas beaucoup moins. Pour la France, en revanche, c'est deux fois moins. C'est une petite quarantaine de milliards d'euros de subventions. Bon, à peu près le double, et même un petit peu du double, un peu plus du double si on compte les prêts. Au total, c'est plusieurs points de PIB, donc c'est beaucoup d'argent. On a assorti ça de règles relativement strictes pour l'emploi des fonds. Il faut que 37% des fonds reçus par tel ou tel pays soient affectés à la transition énergétique et à l'environnement. Et il y a une part tout aussi précise pour la digitalisation, c'est-à-dire le fait qu'on passe au numérique, pour l'éducation, etc. Ça sera bien un emprunt collectif, techniquement réalisé par la Commission européenne. Il va d'ailleurs falloir qu'elle s'équipe, hein, parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas cette faculté. Mais ce sont les différents États qui seront solidairement responsables du remboursement de cet emprunt. C'est-à-dire que ils le seront à la mesure de leur poids relatif dans la zone, c'est-à-dire que l'Allemagne, évidemment, garantira la part la plus importante, la France étant juste derrière.
Mais alors François, quand l'argent va-t-il arriver? Puisqu'on a l'impression que ça prend un temps fou tout ça.
C'est vrai que je vous ai fait là le plan de vol tel qu'il est dessiné par la Commission, mais en réalité, quand on examine toutes les étapes qui se profilent, on est très 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 loin de recevoir de l'argent. Avant le premier centime reçu, il va falloir que deux processus assez longs se déroulent en parallèle. Le premier, c'est que chaque pays doit transmettre à la Commission un plan de bataille, justement, avec tous ses projets en matière de dépenses, et la Commission va l'évaluer. Les plans doivent être transmis entre le 1er janvier, donc il y a 4 semaines, et la fin avril, donc dans les 3 mois qui viennent. La Commission va faire une évaluation provisoire pour justement vérifier si c'est compatible avec les directives que je viens de vous évoquer. Après ça, ça va être approuvé par le Conseil européen. Donc il va devoir voter sur chaque plan à la majorité qualifiée, donc 27 fois. Enfin, on peut imaginer qu'il y aura des votes groupés, que certains pays présenteront collectivement leur plan. Mais là où on peut craindre que ça soit plus long que prévu, c'est qu'il y a théoriquement un droit de veto. Hein. Alors, pas formel, parce que justement, ça a été refusé aux États frugaux. Reste que s'il y avait des oppositions trop importantes, un plan de dépenses ne pourrait pas passer. J'ajoute qu'il y a non seulement des critères économiques, mais aussi des critères politiques, puisque théoriquement, le fait de recevoir de l'argent est subordonné au fait de respecter l'état de droit. Vous vous souvenez que ça avait été une querelle importante justement en décembre. On visait bien sûr la Pologne et la Hongrie qui sont soupçonnés de ne pas être parfaitement cristallines en matière de liberté de la presse, par exemple. Le deuxième processus, c'est que chaque pays doit ratifier avec son Parlement le projet collectif et autoriser la Commission à s'endetter en son nom propre à lui, hein, c'est-à-dire déléguer ses pouvoirs de souveraineté budgétaire pour que la Commission puisse s'endetter et justement mobiliser la garantie des différents États. Je dis son Parlement, il y a quelquefois plusieurs parlements, parce qu'il y a aussi les parlements régionaux qui, dans certains cas, doivent être consultés. C'est un processus très long, on l'observe lors de la ratification des grands accords commerciaux, par exemple, hein, celui qui unit l'Europe au Canada. En moyenne, il dure 13 mois quand ça va bien. Hein. Donc, l'argent sera décaissé seulement à partir de ce moment-là, c'est-à-dire lorsque ces deux processus seront arrivés à leur terme. Et encore, le steeplechase du plan de relance ne sera pas fini parce qu'on va buter à ce moment-là sur des contraintes nationales.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que dans chaque pays, on pourrait ne pas être prêt à recevoir une manne financière aussi importante?
C'est tout à fait possible, parce que paradoxalement, beaucoup d'argent, c'est très compliqué à dépenser. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que il faut identifier beaucoup de projets. Hein. Je vous rappelle les chiffres que je vous donnais il y a un instant, 80 milliards de prêts pour l'Italie, à ça s'ajoutent 80 milliards de dons, en gros 160 milliards. Il faut pas mal d'idées, hein. Il faut pas mal d'organisations pour trouver à employer cet argent. En fait, les capitales n'ont jamais eu autant d'argent à dépenser. Et paradoxalement, ça les panique un peu. On observe ça d'ailleurs déjà avec les fonds structurels, vous savez, c'est-à-dire cet argent qui est transmis, qui est transféré par Bruxelles de façon habituelle. Hein. En gros, c'est les pays du Nord riches qui payent pour les pays du Sud pauvres. Eh bien, en Espagne ou en Italie, seuls 40% des fonds attribués sont dépensés. Parce que on n'a pas suffisamment d'idées qui au moins sont éligibles avec les critères de la Commission. Et puis ensuite, il y a la complexité administrative. En Espagne, il y a 8000 entités administratives qui peuvent être mobilisées pour la distribution des fonds structurels avec d'innombrables niveaux locaux. On peut imaginer que ça ne va pas s'arranger. Alors, l'Espagne et l'Italie ambitionnent de créer une entité administrative spécifique, une task force qui aurait justement pour mission de court-circuiter toutes les autorités existantes pour pouvoir aller plus vite. Mais enfin, on n'y est pas encore. J'ajoute que tout ça crée bien sûr des bisbilles politiques intérieures qui sont importantes. La chute du gouvernement Conte en Italie à la fin janvier est due notamment à des disputes sur l'utilisation des fonds européens, puisque Matteo Renzi a récusé le plan qui avait été projeté par le gouvernement et il en a profité pour sortir du gouvernement. Bon, c'est un peu un prétexte parce que manifestement ses préoccupations étaient politiques, mais c'est vrai que face à autant d'argent, les intérêts se déchaînent et donc même au plan national, à la fois au plan de la complexité administrative et de la stabilité politique, c'est un sujet important.
Et alors si on repasse un instant au niveau européen, est-ce qu'il était question ou est-ce qu'il est question de conditionner le versement de ces aides à la mise en œuvre de réformes? C'est un débat qui a eu pas mal en France autour de la réforme des retraites. Est-ce qu'on va dire à tous ces pays, vous devez en plus réformer?
C'est vrai qu'il a eu lieu en France et notamment par la voix de Marine Le Pen, hein, qui disait « mais on ne touchera pas l'argent européen tant qu'on n'aura pas fait la réforme des retraites, donc le gouvernement est pieds et poings liés ». C'est faux, littéralement. Hein. Il y a effectivement des engagements de réforme qui sont assez vagues. Hein. Et d'ailleurs, cette semaine même, Wolfgang Schäuble, qui est le président du Bundestag, ancien ministre des Finances de l'Allemagne, regrettait que ces engagements soient trop faibles et que finalement, la plupart des pays comptent sur cet argent tombé du ciel pour relancer leur économie, alors que, dit-il, il faut faire des réformes structurelles. En réalité, il y a deux lectures, évidemment, comme toujours, des engagements qui sont inscrits. Pour les pays du Sud, c'est purement formel. Je mets bien sûr la France dans les pays du Sud, c'est-à-dire qu'il suffira de faire quelques génuflexions en disant on va être sérieux budgétairement une fois que tout ça sera fini. Pour les pays du Nord, c'est probablement un peu plus sérieux, et notamment les Hollandais qui sont les plus vigilants là-dessus, eux attendent vraiment que les finances publiques des pays les plus désorganisés soient remises en ordre. Je pense qu'ils peuvent attendre un moment parce que on imagine mal que tout ça soit fait d'ici même 2023.
Alors, est-ce que l'on sait déjà ce que la France a prévu de faire de l'argent qu'elle recevra un jour?
Oui, ça a été présenté par Jean Castex, c'était tout début septembre. Il appelle ça France Relance, c'est 100 milliards d'euros. Donc ça contient une liste des investissements qui devraient être effectués dans ce cadre-là. Transition énergétique, bien sûr, ça représente 30 milliards, bon, c'est conforme justement aux directives européennes, avec notamment, vous en souvenez, un plan de développement de l'hydrogène, avec le soutien aux batteries électriques, avec le développement de la prime Rénov', hein, qui permet aux ménages maintenant sans condition de revenus de subventionner le changement de leur chauffage au fioul pour en faire quelque chose de moins polluant. Mais il y a aussi de la formation, il y a aussi un investissement très important dans le système de santé, de l'aide aux jeunes. Et puis, et ça c'est un peu curieux, ça m'étonnerait personnellement que ça passe comme ça, comme une lettre à la poste à Bruxelles, ça finance en partie la baisse des impôts, et notamment la baisse des impôts de production qui frappe les entreprises, plus de 10 milliards par an. Donc c'est une dépense, je dirais, structurelle qui est financée par une recette conjoncturelle. En bonne orthodoxie budgétaire, ça fonctionne pas. Donc, Bercy a profité de cette enveloppe pour faire ça. Quand on regarde le document qu'a émis France Relance à ce moment-là, on voit qu'il spécule sur une croissance augmenté de 1,5% en 2021 grâce au plan de relance. Au train où vont les choses, ça paraît quand même assez optimiste. Ça va être compliqué. Alors c'est vrai qu'il y a les allocations pour les jeunes et puis l'aide à la formation, mais quand même, ça paraît beaucoup. Tout ça va être piloté par Bercy. Bon, au moins on a un seul interlocuteur, mais Bercy est en quelque sorte agrémenté de nombreux comités, des nouveaux machins créés pour l'occasion. Il y a un conseil de suivi de la relance, le comité de pilotage de la relance, le conseil interministériel de la relance, et puis bien sûr, des comités de suivi régionaux de la relance. Bon, avec tout ça, on est outillé, on fait ça conformément à la tradition française, c'est-à-dire avec de nombreux organismes qui, là encore une fois, on peut le redouter, ne marcheront pas tous forcément dans le même sens au même moment.
Oui, donc ce que vous nous dites, François, c'est qu'on en est resté effectivement à la méthode française. Un problème, une commission.
Oui, tout à fait.
Historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Mais alors, par comparaison, comment font les États-Unis aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont infiniment plus efficaces que les Européens?
Oui, la comparaison est intéressante parce que au plan de la décision, c'est pas beaucoup plus simple. Enfin, ça va se régler en quelques semaines, mais la majorité démocrate au Congrès n'est pas si importante que cela. Et pour avoir la version maximale du plan de relance prévu par Joe Biden, c'est 1900 milliards de dollars, donc 1600 milliards d'euros. Vous voyez que rien que pour les États-Unis, c'est déjà près de deux fois le montant envisagé par l'Europe sur plusieurs années. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Mais pour arriver jusque-là, il faudrait pouvoir passer outre l'hostilité de certains députés républicains. Et pour ça, il faudrait avoir une majorité de 60%. Les démocrates ne l'ont pas. Ils vont devoir composer et subir probablement ce qu'on appelle le flibustering, c'est-à-dire la technique d'obstruction parlementaire qui est tout à fait légale, mais qui ralentit considérablement l'adoption des grands plans comme celui-là. Donc il y a un obstacle, je dirais, de nature politique. Mais une fois que ça sera adopté, parce que très probablement ça va l'être quand même si c'est sous une forme un petit peu réduite, l'impact sera beaucoup plus rapide parce que la technique choisi par Joe Biden est très différente. Au lieu de mettre son argent dans des programmes de dépenses, donc d'identifier les entreprises et leurs projets, on va faire des chèques aux ménages. Et notamment, il y a un chiffre qui a été cité par Joe Biden, c'est 1400 dollars, à peu près 1200 euros, versés pour chaque ménage de la classe moyenne américaine, ce qui lui permet de dépenser. Alors, il va peut-être dépenser d'une façon qui n'a rien de respectueux de l'environnement, en achetant des produits importés de Chine, mais au moins, il va faire tourner les magasins. Et dans un deuxième temps, Biden prévoit de faire un plan de dépenses justement assez analogue au plan de relance européen pour là aussi accélérer la transition énergétique du pays. Mais ça ne sera que dans la deuxième moitié de 2021 et c'est un plan qui aura alors là beaucoup plus de mal à passer avec les républicains qui sont en général plus hostiles aux actions en faveur de l'environnement parce que plus proches des lobbies pétroliers, etc. Mais on voit donc à court terme, ils vont subir des difficultés liées à la politique, mais à moyen terme, compte tenu de la méthode choisie, ça devrait être plus rapide que chez nous.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL, sur Audio Now et sur toutes vos plateformes préférées.